fraude à l'assurance. Première partie, l'intrigue.
Je suis employé dans une boîte de production. Je travaillais sur un téléfilm comme assistant du son. Un jour, nous tournions à la mer. Lors de la deuxième prise, nous nous sommes déplacés de quelques mètres au prétexte d'un meilleur angle de caméra. Une vague plus grosse s'est alors brisée et nous nappant d'écume détruisait une partie du matériel de prise de son. Cette énième déconvenue scella définitivement le sort de cette journée qui fut aussi longue que détestable. La production avait finalement pu, in extremis, trouver une solution pour remplacer le micro perdu. On me désigna pour le sale boulot. Il consistait à passer chez un ingé son à Rennes sur le chemin du retour. La route fut longue. J'étais en colère. J'avais essayé d'appeler en arrivant, mais mon téléphone semblait lui aussi inutilisable. La production avait, dois-je dire heureusement, écrit l'adresse avec le numéro. Je parvins enfin devant l'immeuble où un ingénieur aviné me confia la valise ainsi que des papiers et me donna quelques instructions. Quittant le technicien, j'allumai une cigarette et j'eus envie de fumer dans le calme de la nuit. Je m'assis sur la valise face à la voiture. J'entendis alors une rumeur venant d'une rue sur la droite. Une porte entr'ouverte avait laissé sortir le vacarme d'un café. Je décidai d'aller boire une bière et pris la valise avec moi. L'ingé son avait expressément commandé de ne pas laisser la valise seule dans une voiture pour une histoire d'assurance. J'arrive dans ce café situé au coin d'une rue. J'entre, une vingtaine de personnes font la fête. Au bar, 6, 7, 8 personnes, quelque chose comme ça. Le café n'est pas très grand, long et assez étroit. Le bar occupe un tiers de la longueur vers le milieu et bien sûr s'adosse au mur opposé à la façade. Puis de part et d'autre, des tables, des banquettes, et à peu près face au bar, deux flippers et un jeu de fléchettes. Je vais au bar et je commande un demi. Il est passé 11h. Je me dis qu'un verre, c'est l'affaire de 20 minutes. Je m'installe dans le coin le plus large et le plus calme, du côté de la vitre. Il y a une porte qui bat de temps à autre derrière moi. C'est une sorte d'entrée alternative. L'ambiance est bruyante, un peu trop pour que j'y reste longtemps. Mais pour le moment, j'ai envie de boire mon demi et surtout de ne pas me raisonner. Il y a des moments comme celui-ci où se raisonner n'est pas raisonnable. Bref, je m'emporte tout seul en discutant ainsi avec moi-même et en esquissant sur un carnet une ou deux vues de la falaise qui surplombait le lieu du tournage. Je décide d'aller fumer une cigarette. Je prends ma veste et sors par la porte bis. Calme relatif. Deux filles discutent ensemble à ma gauche. Elles ont l'air saoules. Il faut dire que l'usage de ce genre de rade veut qu'on y passe la soirée, pas qu'on vienne y boire un simple demi. À gauche, un gamin me tape une clope. Je lui dis non, d'aller voir ailleurs, et juste pour le plaisir. Vous noterez l'aspect minable de ce besoin de dire non après avoir dit amen à tout, toute une journée. Je l'ai relevé également. J'ai ajouté pour moi-même, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Je suis rentré, j'ai fini ma bière sans même m'asseoir, je me suis penché vers la banquette pour prendre mes affaires, mais sauf mon carnet et les papiers, tout avait disparu.
Deuxième partie, l'énoncé des règles.
Je ne sais pas s'il y a des physiciens qui travaillent sur l'acharnement des malheurs sur les malheureux et sur la capacité qu'ont les catastrophes de s'accumuler. Quoi qu'il en soit, moi, le premier quidam venu, je discerne une première règle très claire que j'énoncerai ainsi. Plus les circonstances sont mauvaises, plus se produisent accidents et contretemps, ce qui tend à empirer la qualité des circonstances et ainsi à l'infini. Cela se passe, je crois, de démonstration. Je n'ai cependant pas essayé de l'expliquer au téléphone avec la production. Après avoir quitté le bar, après avoir même pris le soin pour la forme de laisser mon nom, la nature des sacs disparus et mon numéro de téléphone à la patronne du café, j'ai réfléchi un peu à la meilleure manière de me tirer de cette situation. C'était pas simple de rester calme, ni même de réfléchir simplement. Je suis allé dans la voiture et j'ai branché la radio sur une station de musique classique que j'ai laissée très bas. J'ai consulté les papiers que l'ingé son m'avait donnés pour la production. C'était une espèce de convention de location. Le bon point était qu'elle était signée, ce qui signifiait à mon avis que le matériel était déjà assuré. Et puis j'aurais pu me faire fracturer la voiture, ce qui aurait été pire du point de vue de l'assurance, car les franchises sont souvent doublées, voire triplées dans le cas de vol de matériel dans un véhicule. Néanmoins, je me doutais qu'un cas comme le mien ne serait pas couvert par l'assurance. J'essayais d'estimer le prix du matériel. J'aurais parié quelque chose de l'ordre de 5000 euros. Une broutille. Sauf qu'il y avait pour moi matière à être blacklisté, mis au rebut des assistanceaux. C'est là une seconde règle, assez explicite d'ailleurs, qu'on apprend rapidement dans le métier. Le fonctionnement en est très simple, et l'énoncé oral, comme dans toutes les tribus. On l'a déduit de toutes ces anecdotes que les gens du milieu racontent sans fin. Combien d'histoires de tournages catastrophiques, de caméras filmant sans pellicule, de branchements défaillants et de problèmes électriques dus à la négligence, de camions garés par des techniciens saouls qu'on met plusieurs jours à retrouver. Projecteurs dégringolés sur un décor, maquillage irritant, travaux ayant défiguré un site repéré ou base militaire dont les essais étaient restés inouïs jusqu'au tournage. J'avais toujours pensé que c'était des sortes de fables, de mythes, ou à la limite des racontars amplifiant complaisamment des contretemps somme toute pas si graves. Sans doute un peu de tout ça. Et dans cette voiture, à ce moment précis, j'entendais presque déjà l'histoire de ce tournage. Je me demandais comment Nathalie, l'assistante mise en scène, qui est aussi rigoureuse sur le plateau que malveillante en dehors et jamais en défaut de jaserie, comment Nathalie narrerait ce sujet. L'assistant, je m'en foutiste, qui va boire une bière de nuit et piteux admet s'être fait voler son matériel dans un troquet. Bref. Ce qu'on déduit de ces anecdotes, c'est qu'ils constituent les récits édifiants sur lesquels repose le monde de la production télé et ciné. Ils en sont les mythes fondateurs. Ils expriment la réprobation sociale et assurent une cohérence de la corporation en lui permettant de se débarrasser à bon compte de ses défauts, en désignant des boucs émissaires. Se venger, faire un exemple, faire comme si l'on était à la hauteur de l'événement, et toutes ces stratégies qu'on n'énumérera pas mais qu'on regroupe en général sous le nom de moralité. Bref, si je voulais échapper à ce funeste programme, pour ma carrière, je savais le minimum que l'on attendait de moi. Ma négligence était incompréhensible et par conséquent inexcusable, et dans la mesure où elle empêchait une couverture de vol par l'assurance, il fallait bien que je prenne mes responsabilités, comme on dit. Ce qui signifiait ici, prendre sur moi de faire une fausse déclaration, de déclarer une situation de vol compatible avec les termes de l'assurance du matériel. Autrement dit, assumer seuls les risques de la fausse déclaration, anticiper déjà sur les conséquences immédiates. Il fallait aussi que je prenne les devants et que je retourne chez cet ingé son pour récupérer un autre micro, une autre valise, prétexter une modification de dernière minute du plan de tournage. Peu importe les conditions de ce prêt, si je ne récupère pas une valise de son dans les 6 prochaines heures, c'est une journée de tournage qui tombe à l'eau.
Troisième partie, première péripétie.
Qu'est-ce que tu fous là ?
J'ai reçu un coup de fil en route, la prod change son fusil d'épaule et voudra organiser une double équipe demain. Y'a moyen de faire une autre location ?
Bonjour amateur production, ne quittez pas.
Je lui fais un sourire complaisant et il me laisse entrer. La soirée, dans le salon désert, en est à un stade étrange. Il y a de la musique pour danser, mais les survivants en sont bien incapables. Sur le canapé, une fille qui fume une cigarette et un gars qui somnole affalé. De la poudre partout sur la table basse. Je suis le gars jusque dans un bureau.
T'as besoin de quoi ?
Micro, perche, préamp, magnéto et câble. Enfin, ce qui conviendrait pour des prises perchées en extérieur.
Je vais voir ce qu'il me reste. T'es qu'à aller te prendre une bière en attendant que je te prépare les papiers.
Je lui dis que je l'attends à la fenêtre, hein, histoire de jeter un œil sur ma voiture, pour qu'il me prenne pour un gars responsable. Il manque toujours un peu de mouvement dans le salon. Déjà, de traverser la pièce, ça semblait filer le mal de mer à tout le monde. J'ouvre la fenêtre en regardant distraitement la voiture, comme pour croire à mon propre mensonge. Puis je retourne dans le bureau où l'on tape une convention.
J'ai tout mis devant la porte, si tu veux vérifier le matériel.
Entendu. N'hésite pas à saler la note, hein, c'est tarif de nuit. Le mec a l'air de me trouver sympa, et patient surtout. On ne peut pas dire qu'il le soit lui-même. Il griffonne comme à un concours de sténodactylo. Je comprends que cette partie du plan est dans la poche. Et ce soulagement temporaire m'assure encore plus dans le rôle. Ça doit être bon de réussir une performance d'acteur sur un plateau. Ils ont toujours l'air un peu mutiques entre les prises. Pensez-vous qu'ils apprécient en eux-mêmes leur partie ? Qu'ils répètent en vue de la prochaine prise ?